le père Henri a publié de nombreux volumes, dont le dernier a pour titre « Vivre et combattre la pauvreté », paru aux éditions du Cerf.
Père Henri, à quel aspect de votre vie de religieux êtes-vous le plus sensible ?
Ah, eh bien, je crois que c'est à l'aspect de serviteur de l'Évangile.
Serviteur de l'Évangile ?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Je crois que ce qui me passionne le plus, c'est de lire et de relire l'Évangile, de le célébrer comme nous le faisons dans la liturgie, et puis de le dire, de le transmettre.
De le transmettre.
Oui.
C'est pourquoi, pendant de nombreuses années, peut-être, vous avez été le directeur d'une revue qui s'appelle Parole et Mission, et
voilà.
Vous vous êtes occupé beaucoup des problèmes relatifs à la mission.
Et la transmission de l'Évangile, par conséquent. Ah oui, je souffre quand je ne peux plus parler de l'Évangile. Je souffre quand je ne peux plus prêcher ou catéchiser ou dialoguer avec un incroyant ou aller vers ceux qui ne pensent pas comme nous, etc.
Parce que vous avez besoin de convaincre.
Ah non, peut-être pas de... Ah non, non, j'ai besoin de recevoir aussi. Non, parce que je ne veux pas m'enfermer dans une pensée particulière qui est la mienne. Je désire toujours l'ouvrir, l'élargir le plus possible. Et ça m'intéresse toujours de voir comment la foi catholique peut, dans toute la mesure où elle le peut, bien sûr, intégrer une croyance qui n'est pas chrétienne. Je pense toujours à plusieurs missionnaires. Par exemple, j'ai eu un bon ami dont je parlais tout à l'heure, là, et qui s'appelle le père Mohamed Abdeljalil, qui est un musulman converti, et qui me disait souvent, je n'ai rien renié de mon islam. J'avais tout dans mon islam. Une seule chose me manquait, l'amour. Il était passionnant. Ou bien alors comme un de nos frères, qui est un dominicain japonais, et qui dit partout, sans vergogne, moi je suis bouddhiste et catholique. Ouais, il a intégré, bon, un autre ne pourrait peut-être pas le faire, il faut voir comment il le fait, c'est subjectif, mais il a intégré ça. Ça me passionne.
Le mot missionnaire, qui autrefois, en tout cas dans les milieux chrétiens, était auréolé d'un grand prestige, aujourd'hui...
Ne l'est plus.
Oui.
Aujourd'hui, ne l'est plus.
On est plutôt réservé. On a une certaine inquiétude de ce mot qui a un côté apologétique, défense,
oui.
Agression. Comment vous réagissez à cela, Père Henri ?
C'est vrai que il a ce côté-là aujourd'hui. Et je me souviens, il y a déjà longtemps, ça devait être en 72, oui, il y a presque 15 ans, j'allais dans un pays d'Extrême-Orient et j'ai rencontré un missionnaire avec qui j'ai parlé et qui m'a dit tout de go, il faudrait que les gens comprennent que nous ne sommes plus ici pour convertir.
Ah bon.
Ça m'avait frappé. Et je me suis dit, ben maintenant, c'est assez répandu.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors dans ces pays dits de mission si on n'y va pas pour convertir?
Voilà, on dialogue. On dialogue et on essaye de dire à l'autre, je ne prie pas. C'est une phrase que je lisais avant-hier, je crois. Je ne prie pas pour que tu te convertisses, mais pour que tu fasses la volonté de Dieu sur toi. Et que tu cherches, que Dieu te donne la grâce de chercher la vérité. Nous la cherchons tous. Mais ceux qui la cherchent sont déjà sur la voie, si loin qu'ils soient.
J'ai lu dans plusieurs de vos ouvrages, et plusieurs fois ce thème revient donc sous votre plume, que la pauvreté est aujourd'hui le territoire privilégié de la mission. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ah oui, eh bien, c'est-à-dire que jadis, on a cherché, par exemple, comme les jésuites en Chine, à convertir les intellectuels,
les mandarins,
c'est ça. Et aujourd'hui, partout, ce qui préoccupe, c'est la pauvreté, ce sont les pauvres. On va vers les pauvres. Où qu'on aille, on va vers les pauvres. Et puis, alors c'est maintenant un slogan depuis le Concile, qui a été long à se mettre en place d'ailleurs, ça n'a pas été acquis par tout le monde tout de suite, mais partout dans les conférences épiscopales, dans les chapitres généraux de congrégation ou d'ordre, n'est-ce pas, partout on dit priorité aux pauvres. Dans notre chapitre, dans notre congrès dominicain à Madrid il y a quelques années, eh bien ça a été le slogan aussi, déclaré comme conclusion priorité aux pauvres. Ils ont beaucoup à nous apprendre.
Mais beaucoup à apprendre, mais quoi encore ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre ?
Ah, ils ont à nous apprendre l'homme pauvre, le Christ. Nous avons à le découvrir à travers eux, puisque le Christ s'est identifié aux pauvres. Il ne s'est pas identifié aux grands prêtres, aux chefs de la nation, aux docteurs de la loi, mais aussitôt, il a été tout de suite vers les derniers, vers les exclus, vers les excommuniés de partout, vers les pauvres, les petits. Et c'est là que nous le découvrons.
Il y a quand même un changement assez important là, parce qu'autrefois, enfin, l'image que nous en avons, c'est que la croix accompagnait toujours l'épée. C'est comme ça que ça s'est présenté en Amérique.
Voilà.
Je pense que ça s'est présenté un peu de la même façon en Afrique.
Oh oui.
Peut-être dans les pays d'Asie d'une façon un peu différente, mais encore là. Et puis tout à coup, n'est-ce pas, l'Église est toujours apparue du côté du pouvoir, vous me dites que maintenant elle veut se situer du côté des pauvres. Est-ce que c'est précisément parce que l'Église a perdu ce pouvoir en Occident?
Vous avez raison, à partir du 15e siècle, 16e siècle, en raison des patronats et du don de patronat, n'est-ce pas, Alexandre VI... en 1492, a partagé le monde en deux, et il a donné la moitié occidentale à l'Espagne pour qu'elle évangélise ce qu'on ne savait pas encore, mais enfin ce qu'on a découvert, les Indes occidentales, les Amériques comme on les appelle aujourd'hui, et puis la moitié orientale au Portugal. Et évidemment, on est allé vers tous ces pays-là dans une aura de puissance, de pouvoir. Et c'est le péché originel de la mission moderne. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé au 1er siècle, où des pauvres, des pêcheurs venant de Palestine, dans un pays sans richesse, sans tradition culturelle à l'époque, il y en avait une, mais enfin aussi grande que celle de Rome, etc., et sont arrivés à Rome, dans la capitale de la culture, dans la capitale de la puissance, pour évangéliser Rome, et leur évangélisation a été formidablement efficace, puisque le christianisme a augmenté, s'est répandu pendant ces trois siècles de persécution, comme il ne s'est plus répandu aussi rapidement dans la suite. Mmh. Alors c'est cela qu'on veut retrouver aujourd'hui, c'est cela dont on prend conscience, ce péché originel de la mission, d'être parti avec la puissance et d'avoir imposé la foi, ce qui est une contradiction dans les termes, si je puis dire.
Ce changement d'orientation doit beaucoup au travail que vous avez fait au sein d'une revue et d'un groupe d'études qui s'est appelé Paroles et Mission.
C'est ça, c'est pas modeste de le dire, mais je le dis.
C'est moi qui l'ai dit. Alors vous ne faites que dire une chose, c'est que je dis la vérité.
Oui, oui. je crois que ça a contribué, il n'y a pas de doute. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la parole. Il y a un tas de revues qui s'appellent Paroles et Pain, Paroles et Esprit, Paroles je ne sais quoi. Et c'est nous qui avons été les premiers à l'employer en christianisme. Et on a eu quelques mal, parce que quand j'ai présenté cela à Rome, eh bien, le père général a dit « Oh non, 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 ça sent le protestantisme, etc. Il faut mettre doctrine et mission. » Mais je dis « Si c'est doctrine et mission, je ne la fais pas. » C'était pas du tout ça que je voulais.
Donc vous avez eu des problèmes avec les autorités de votre ordre. Vous avez dû avoir aussi des problèmes avec les autres autorités ecclésiastiques.
Oui, j'en ai eu pas mal. Parce que j'ai un âge où tout de mon âge en ont eu. Aujourd'hui, on en a plus beaucoup, mais enfin, j'en ai eu. Mais enfin, pour l'initiation théologique, j'en ai eu pour certains livres, j'en ai eu pour Paroles et Missions au début. Et puis ensuite, ça a été beaucoup plus simple.
Comment vous est venue l'idée de former ce groupe Paroles et Missions?
Ah ben c'est vieux. Et c'est vieux, c'est à partir de la vie spirituelle, dont on m'a remis la charge pendant la guerre.
Enfin, une revue dominicaine publiée
au CERF, n'est-ce pas, de vie spirituelle, une vieille revue, fondée par le père Bernadou en 1919, aussitôt après la guerre, et dont j'ai eu la charge avec le père Play à la fin de la guerre, et comme en termes d'occupation, dans la partie occupée de la France, on ne pouvait pas publier de revue. Alors, dans les années 42, 43, 44, j'ai dirigé les cahiers de la vie spirituelle qui paraissaient par des petits livres. Et puis alors après ça, eh bien, je me suis intéressé dans la vie spirituelle, justement, aux publications missionnaires. Et en particulier, je suis heureux de le nommer ici, le père Devailly, avec qui j'avais beaucoup d'amitié, qui était très axé sur ces questions-là, m'a aidé. Et là, nous avons fondé très vite, dans les années 52-53, n'est-ce pas, un groupe qui se réunissait de temps à autre sur ces questions-là, qui passionnait le père de Veilly, qui était missionnaire en Suède ensuite. Et puis alors, en 1954, nous avons fondé une revue qui s'appelait « Bible et mission ». C'était le premier titre que nous lui avions donné. Le premier numéro est sorti et il a été aussitôt interdit. Stoppé. Et c'était fini. Alors, nous sommes rentrés dans... C'était l'année où on interdisait les prêtres ouvriers. Enfin, c'était la fin des prêtres ouvriers. C'était nos années noires. Alors, nous sommes rentrés dans le tunnel. Et puis, il y a eu un grand changement en 1957. Le provincial a changé, les relations ont changé avec Rome, etc. etc. Alors, on a pu repartir. On a pu repartir. Mais il y avait 3 années d'intervalle. On avait réfléchi, on avait l'expérience de ce qui s'était passé, on a décidé de changer de titre. On en a proposé beaucoup, beaucoup, et puis finalement on s'est arrêté à Parole et Mission. Uh-huh. Alors j'ai toujours le premier numéro interdit, évidemment, de Bible et Mission, mais...
Vous avez eu beaucoup à souffrir de l'Église institutionnelle.
À ce moment-là, oui, oui. Et maintenant je souffre beaucoup de ce qu'on dit d'elle.
Ah oui. Est-ce qu'on peut regarder les deux aspects de cette souffrance? D'abord, cette première souffrance que vous avez pu connaître, d'avoir des projets pour cette Église et de voir ces projets refusés.
Oui, oui. Bien sûr, c'est déjà vieux maintenant, j'y pense plus beaucoup. Mais enfin,
ça a quand même été un scandale
pour
beaucoup de
chrétiens. Ah oui, c'est sûr que c'est lourd quand on a travaillé à une revue ou à un livre. Par exemple, j'ai publié Prêtre d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection Une âme sanctam du père Congar, qui m'avait ouvert sa collection pour ce volume. À peine sorti, interdit, voilà. Alors, aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire, parce que ce serait la ruine de l'éditeur, total. Mais là, nos éditions marchaient très bien, et on a pu encaisser ça, mais les livres étaient sortis, on n'a pas pu les vendre, il a fallu les placer par amitié, ici ou là, enfin, c'était pas commode. Alors c'est douloureux, oui, bien sûr. Voilà, on dit quoi faire, on hésite, et puis alors on devient facilement conformiste, ou bien au contraire assez agressif.
Vous ne vous êtes pas révolté?
Oh non. Non, à ce moment-là, moins qu'aujourd'hui, mais j'ai le sentiment profond que c'est Dieu qui mène le monde, par conséquent... Je crois que l'islam m'a beaucoup appris de ce côté-là, et que tout concourt au bien, et qu'il doit y avoir un sens, et que je ne découvre pas sur le moment, mais j'aime bien le mot de Jésus à Saint-Pierre, n'est-ce pas ? Tu comprendras plus tard, je me le répète souvent, bon, voilà. Alors, je laissais faire les événements, parce que, me semble-t-il, c'est Dieu qui les menait, même si il y a du péché là-dedans. Et comme disait Saint-Augustin, le péché aussi sert, enfin, ou Claudel d'ailleurs, le péché aussi sert, il sert les événements.
Vous étiez sûr d'avoir raison contre les autorités ecclésiastiques?
Ah non, je crois pas.
Non?
Je crois pas. Ben, tant que je ne voyais pas plus clair, je me disais, maintenant, je maintiens ma conviction, je maintiens ce que je dis, je pense. Mais j'essayais de voir, et puis j'ai eu des frères qui m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, comme le père Liégé, comme d'autres, qui était un excellent ami, je cherchais à voir s'il n'y avait pas une meilleure vérité que celle dont j'étais convaincu. Je crois que j'ai toujours cherché ça.
Donc vous faisiez confiance malgré tout?
Oui, malgré tout. Peut-être pas à telle et telle autorité, mais au Saint-Esprit, si vous voulez, dans l'Église. Le père Médieu, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, le père Médieu qui a été un de mes frères très 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 aimé au CERF et qui a eu une influence considérable, disait il faut faire très attention dans l'Église, parce qu'il arrive, pardonnez-moi son expression, que l'Église dise la vérité par mode de connerie. Et on voit après ça que malgré tout, elle avait raison, mais c'est mal dit, les arguments sont pas bons, mais c'est vrai.
Mmh. Beaucoup de prêtres à ce moment-là, et beaucoup de chrétiens ont quitté l'Église au moment des prêtres ouvriers, au moment de toutes ces condamnations.
Oui.
Comment vous avez réagi à cette crise-là?
Ah, très péniblement. Ah, très douloureux. Enfin, j'ai eu un tas de frères qui ont quitté, c'est sûr, qui ont quitté l'Église à ce moment-là. Oui, oh, c'est pénible. Ça a été très pénible. Ça paraissait pour certains comme une ouverture. C'est sûr que on était plus, les prêtres ne se sentaient, et les religieux ne se sentaient plus prisonniers de leurs vœux, de leurs contrats, etc. Comme jadis, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais le fait qu'il y en ait tant, ça a été pénible.
Mais beaucoup de chrétiens aussi, devant une autorité ecclésiastique qui leur semblait ignorante et volontairement ignorante des réalités du monde, ont pris le large, n'est-ce pas? On a parlé même à ce moment-là, un célèbre jésuite a parlé du troisième homme, de celui qui quittait en douce.
Oui, c'est sûr. Oui, on prit le large. Je crois que c'est un peu passé aujourd'hui. Il me semble que, en tout cas, la jeune génération ne semble plus comme ça.
Et vous me disiez que vous souffriez maintenant de ce que l'on dit de l'Église.
Ah oui, oui, je crois que malgré tout, j'aime l'Église, je crois, et je crois que il n'y a pas d'institution au monde semblable à elle, et malgré les fautes des chrétiens, elle est pécheresse, bon, enfin tout au moins les chrétiens, elles sont pécheurs, mais il y a autre chose, il y a autre chose. Et je suis frappé, puisque j'ai pas mal voyagé, eh bien, de voir en particulier une chose, et c'est que, où que j'aille dans le monde, dans les léproseries par exemple, eh bien, que ce soit en Afrique noire, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Inde, que ce soit au Japon, j'en ai vu aussi au Japon, que ce soit au Bangladesh, toutes les léproseries que j'ai vues, c'était des religieux et des religieuses chrétiennes. Et jamais je n'ai vu des musulmans s'en occuper, ou des hindouistes, hindouistes c'est impensable, d'ailleurs, etc., etc., comme Mère Thérésa le dit, c'est impensable. Partout il y a des pauvres, il y a tout de même des chrétiens qui sont là et qui donnent leur vie jusqu'au bout, et ça je crois que c'est le plus beau témoignage que l'Église montre au monde, n'est-ce pas, c'est cette miséricorde et, et cette compassion pour les petits, les pauvres, les souffrants, partout. Chez les pygmées d'Afrique noire, ou chez qui personne ne va, n'est-ce pas, ou chez les Indiens de la cordillère des Andes, tout en haut, là, chez qui personne ne va, voilà, il y a des chrétiens. Il n'y a pas les musulmans, il n'y a pas les hindous, etc. Bon, cela dit, nous sommes tous pécheurs, il y a tout. Il y a tous les péchés, et il faut que ce soit comme ça. N'est-ce pas? Parce que l'Église n'est pas une secte de purs, et ça a toujours été horriblement dangereux dans l'histoire, lorsque certains se prétestent que c'est plein de péchés dans l'Église, qu'on a perdu la bonne doctrine, etc., qu'on fonde à côté une autre Église, comme un peu Mgr Lefebvre a tendance à le faire aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il y a toujours une impureté pour des hommes, n'est-ce pas, à ne vouloir frayer qu'avec des purs, et à ne pas vouloir frayer plutôt avec des impurs, n'est-ce pas ? Comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour rien au monde, je ne voudrais qu'on m'écarte de la table des pécheurs. Voilà, nous sommes avec des pécheurs, il faut rester avec. Et il vaut mieux des cérémonies beaucoup moins belles que celles que fait Mgr Lefebvre, mais en convivence avec des pécheurs, nous tous ensemble, saints et pécheurs, plutôt que des cérémonies parfaites entre purs. Que la pureté soit rituelle, légale, morale, etc.
Mais quand on parle Église, on a l'impression de plus en plus que l'on parle Occident, que l'on parle d'un petit groupe qui devient minoritaire même en Occident, de quelques-uns qui sont plus ou moins favorisés finalement par la société, etc. Est-ce que,
oui, eh bien je crois que cela est en train de changer. Cela est en train de changer parce que tout de même, les vocations, par exemple, diminuent en Occident, c'est vrai, mais elles augmentent, je crois, à peu près partout ailleurs. Hein? Et la mission, nous parlions de la mission tout à l'heure, mais il y a un phénomène assez extraordinaire aujourd'hui, c'est que jadis, il y a seulement 20 ans, tous les missionnaires venaient d'Occident, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, la majorité semble venir d'ailleurs. Tu vois ? Ils viennent du Japon, ils viennent de Corée. La Corée a fondé les missions étrangères de Corée. Le Vietnam, juste avant l'occupation, venait de fonder les missions étrangères du Vietnam. N'est-ce pas ? L'Inde, il y a des années, etc. Quand j'étais au Maroc, eh bien, nous avons vu arriver deux jeunes sœurs japonaises, parce qu'il n'y avait plus de vocation. Bon, eh bien, la supérieure générale les envoyait au Maroc pour garnir les maisons un peu dégarnies qui étaient là. Elles avaient appris le français en France, et puis elles apprenaient même l'arabe. Et ainsi de suite. Et le Brésil envoie des missionnaires en Angola, etc. C'est facile parce qu'ils parlent la même langue. En Afrique, le Nigeria envoie des missionnaires dans d'autres pays d'Afrique, etc. Il paraît, j'ai lu cette statistique, que maintenant, eh bien, les missionnaires venant d'ailleurs seraient plus nombreux que les missionnaires qui viendraient d'Europe.
Est-ce qu'on peut imaginer que, dans quelques années, vu la déchristianisation des pays occidentaux, est-ce qu'on peut imaginer que ces pays seront demain évangélisés, comme on disait autrefois, par des gens qui viennent des pays dits du tiers-monde?
Oui, d'ailleurs... Il y a aujourd'hui beaucoup, à Paris simplement, de prêtres. C'est un prêtre zaïrois qui a prêché l'Avent à la télévision, n'est-ce pas, cette année. Et je crois même le carême, ça je n'ose plus le dire parce que je ne l'ai pas regardé, n'est-ce pas. Ça commence à exister. Seulement, d'un autre côté, je ne parlerai pas trop vite de la déchristianisation de l'Europe. Parce que c'est vrai qu'il y a un lâchage assez général de la pratique, etc. Il ne faut pas être... optimiste invétéré, mais c'est vrai aussi qu'il y a des semences, des petites semences qui sont jetées en terre aujourd'hui et dont on ne sait pas tous les fruits qu'elles produiront. Enfin, où on était l'Église en 1801 au moment du Concordat, c'était pas très beau en France, voilà, tout s'en allait. Et on aurait pu craindre que toutes nos églises, alors matériellement parlant, soient transformées en temples de la raison. Et puis peu à peu, l'église qui avait perdu la classe bourgeoise à la Révolution l'a regagnée, elle a perdu la classe ouvrière. Mais enfin, il y a eu des semences au XIXe siècle extraordinaires, dans le domaine de la charité, dans le domaine de l'action sociale, dans le domaine de la mystique aussi, etc., dont nous avons reçu les fruits. Et puis maintenant, je crois qu'il y en a beaucoup aussi. Il y a des mouvements de prière, il y a des vocations contemplatives très, très nombreuses, il y a des vocations particulières, alors dans le mariage aussi, le lion de Judas, dont vous avez entendu parler.
Oui.
Il y a des choses assez, assez curieuses et assez extraordinaires, comme cette communauté Marie-Jean à Lyon, n'est-ce pas, qui groupe des hommes et des femmes religieux, religieuses, qui font vœu de chasteté, et dont la supérieure est une femme. C'est simplement curieux. Mais il y a. Et puis cette attention aux pauvres, c'est assez, assez nouveau, cette attention à l'immigré, n'est-ce pas? En France, il y a pas mal de disputes à ce sujet-là, mais enfin, l'Église, sur ce sujet, est très nette. Que ce soit du côté de Mgr de Courtrai, du côté de Mgr de Laporte, etc. On répète tout le temps cette priorité, mais cet accueil nécessaire de l'immigré, parce qu'il est pauvre, de l'étranger. C'était une loi en Israël, n'est-ce pas? Souvenez-vous que vous avez été étranger en Égypte, alors... accueillez vous-même l'étranger, le pauvre, etc.
Alors vous êtes optimiste. Vous êtes un optimiste sur l'avenir de l'Église.
Ah, ça c'est toujours un mot piégé. Parce que optimiste à long terme, oui, certainement. À court terme, on voit tant de dégradation que je me dis que ça peut aller assez loin. C'est sûr. Mais je pense que... Ça sera rattrapé. Parce qu'il y a tout de même une minorité très, très extraordinaire en France.
Qui est responsable de ce rattrapage? Les prêtres, les évêques, les laïcs?
Oh, ça, c'est l'Esprit Saint. Il va là où nous n'avons pas idée qu'il aille, et nous le voyons après coup. Mais je pense que tout le monde est un peu responsable.
Tout le monde?
Tout le monde, enfin, et qu'il y a des responsables partout. Il y a des responsables dans les foyers. Et par exemple, les équipes Notre-Dame, ça a été une chose assez extraordinaire, et ça l'est toujours, en France. Ça donne des foyers d'une qualité extraordinaire. Je crois que je n'ai pas rencontré d'amour conjugal comme je l'ai rencontré dans ces équipes. Puis, il y en a d'autres, des mouvements. Et puis, c'est vrai aussi de beaucoup de prêtres. Regardez, la hantise aujourd'hui de beaucoup d'être au aumônier de prison, de s'occuper des prisons, de visiter les prisonniers, etc. On l'a toujours fait, mais c'était une fonction marquée sur le catalogus dont s'occupait un chanoine, mais celui qui l'avait n'avait peut-être pas le charisme et la passion qu'il a aujourd'hui d'y aller. Hein? Je pense à un de mes frères, Père Maillard, là, qui est au milieu de prison à Lille. Il vient d'écrire un livre, L'Évangile aux voyous. Et puis je pense aussi à un frère qui les visite à Lille, ses prisonniers, et qui a un petit cercle biblique avec eux, et qui découvre des choses extraordinaires dans cette convivance avec eux, dans cette réflexion qu'il fait avec eux.
Il s'agit donc moins, pour nous résumer, il s'agit donc moins d'annoncer des choses aux autres, étant sûr de la vérité,
que de vivre avec eux. Voilà. C'est ce qu'on dit partout, n'est-ce pas? C'est le slogan actuel, vivre avec. Mmh. Et je crois que c'est essentiel. J'ai écrit un livre sur la pauvreté, justement, je veux montrer que combattre la pauvreté, c'est pas tant une affaire de donner de l'argent, des vêtements, etc., etc., etc. Bon, c'est peut-être nécessaire immédiatement, mais on peut faire tomber des tonnes d'or sur les pays pauvres. On m'a dit, il y a quelques années, qu'au Bangladesh, on avait donné 1000 fois le plan Marshall. Eh bien, celui qui s'occupait des dons là-bas m'a dit, c'est décourageant, rien n'a changé. Ben, ça n'a pas bougé. C'est pas ça, il faut changer l'homme. Il faut changer sa volonté. Alors, comment ? Il n'y a pas d'autre moyen que d'être avec lui, de l'accompagner, de vivre avec lui, de se faire pauvre avec lui pour essayer de monter avec lui.
Donc de se transformer soi-même.
Ah oui.
Père Henri, je vous remercie.
Rappelons que le père Antonin Marcel Henri a publié en 1986 « Vivre et combattre la pauvreté » aux éditions du Cerf, « La longue marche de l'Église » en collaboration aux éditions Bordas en 1981 et « L'autre, questions actuelles sur le mariage » aux éditions SOS en 1976.